Je me laisse conduire de cours en cours par une logique qui n'est peut-être pas très apparente. Hein. Je suis un fil et on voit bien où on verra bien où il nous mènera. La dernière fois, je parlais, pour terminer, de la complexité de la recherche du temps perdu. J'en parlais comme tout complexe et contradictoire. Et cela m'a rappelé ensuite une phrase de Reynald Lohan au moment de la publication du premier volume de La recherche du temps perdu du côté de chez Swann en 1913, une phrase qui m'a toujours beaucoup frappé, que j'ai déjà citée, et à laquelle je voudrais revenir pour commencer. Reynald Lohan écrivait à une amie, « Le livre de Proust n'est pas un chef-d'œuvre si l'on appelle chef-d'œuvre une chose parfaite et de plan irréprochable. » Il soulignait « parfaite et irréprochable ». C'est sans aucun doute le plus beau livre qui est paru depuis l'éducation sentimentale. Drôle de proposition, hein. C'est un livre qui n'est pas un chef-d'œuvre, si on appelle chef-d'œuvre une chose parfaite et irréprochable, mais c'est le plus beau livre depuis l'éducation sentimentale. J'y repensais donc, puisque j'insistais la semaine passée avec Malcolm Bowie, en vous parlant de Malcolm Bowie, et grâce à lui, j'insistais sur cette complexité contradictoire de la recherche du temps perdu, sur cet aspect de tout composite, impur, qui, je crois, est lié à ce caractère de roman de mémoire de la littérature. Ce côté un petit peu monstrueux du livre, tout l'opposé de la table rase, de l'œuvre pure. Hein, on a tendance souvent à identifier l'œuvre moderne à l'œuvre pure. Il y a beaucoup d'insistance sur la poésie pure, débat des années 20, cette poésie pure qui est incarnée par Mallarmé et par Valéry, lors de la polémique avec l'abbé Brémond. Gide est à la recherche du roman pur dans les Faux-monnayeurs. C'est tout ça qui me reconduisait à cette formule de Reynald Lohan et à donc des réflexions sur Proust impur. La recherche du temps perdu, c'est une œuvre qui est devenue classique, c'est un classique, mais ce n'est certainement pas un classique au sens que l'on donne d'habitude à cette appellation. C'est une œuvre classique parce qu'elle est canonique, parce qu'elle est au Panthéon, mais ce n'est certainement pas une œuvre dont les qualités principales sont celles qu'on attend de l'œuvre classique: raison, concision, ordre, mesure, réserve, équilibre, harmonie, simplicité, modération. Un peu le contraire de tout cela. C'est chez Gide que je trouve ces caractéristiques de l'œuvre classique. Et Gide qui disait « L'œuvre d'art classique raconte le triomphe de l'ordre et de la mesure. » Est-ce ce qu'on trouve dans la recherche du temps perdu? Je ne le crois pas. Et Henri Père ajoutait dans un texte des années 40, qui est une bonne définition du classicisme, c'est un art de la mesure, de l'ordre, de l'équilibre, toujours, en face d'un art que l'on juge excessif, violent, mystérieux et obscur. Tout cela ne caractérise donc pas la recherche du temps perdu, et en ce sens, on pourrait dire que c'est plutôt une œuvre irrégulière, une œuvre baroque, peut-être. Je ne voudrais pas aller dans cette direction, mais je voudrais réfléchir à cette idée d'œuvre complexe. En vérité, réfléchir en revenant à des moments de la recherche du temps perdu où le narrateur de la recherche du temps perdu médite lui-même sur le caractère complexe d'un certain nombre d'œuvres qui sont pour lui des œuvres modèles. Et d'abord, une citation que j'ai déjà faite il y a un certain nombre de cours, lorsque le narrateur expliquait qu'à la première audition d'une œuvre nouvelle, on ne s'y reconnaît pas, on y est perdu parce qu'on n'a pas encore la mémoire de cette œuvre qui permet de la comprendre peu à peu. Cette nécessité de l'initiation à l'œuvre complexe. L'œuvre classique, on peut dire qu'on n'a sans doute pas besoin d'y être initié, et elle est simple et elle est ordonnée. L'œuvre complexe, elle déroute. Et je vous rappelle ce que disait le narrateur, hein, devant cette œuvre dans laquelle on ne pénètre pas, probablement ce qui fait défaut, la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Car la nôtre, relativement à la complexité des impressions, voici cette expression, il y a une complexité d'impression qui est laissée par l'œuvre, car la nôtre, notre mémoire, relativement à la complexité des impressions auxquelles elle a affaire pendant que nous écoutons, est infime, aussi brève que la mémoire d'un homme qui, en dormant, pense mille choses qu'il oublie aussitôt, ou d'un homme tombé à moitié en enfance et qui ne se rappelle pas la minute d'après ce qu'on vient de lui dire. Ces impressions multiples, la mémoire n'est pas capable de nous en fournir immédiatement le souvenir. Bien, c'est à tout cela que je voudrais réfléchir aujourd'hui, à cette complexité de l'œuvre, à cette œuvre totale qu'est la recherche du temps perdu, comme une somme, mais une somme complexe. C'est un peu ce que je vous disais la semaine passée sur la lecture de Mallarmé qui m'a conduit à tout cela. Vous vous en souvenez, je disais, il y a un moyen de lire Mallarmé comme si Mallarmé c'était obscur parce qu'il y avait un sens préalable, il y a un sens qui est avant le poème, et puis le poème obscurcit ce sens. C'est un petit peu le modèle de la lecture rationnelle de Mallarmé, qui a très souvent été la lecture française de Mallarmé, donc chercher à retrouver le sens qui était avant le poème et que le poème a obscurci. Et puis il y a une autre lecture qui est beaucoup plus empirique et non rationaliste, qui pense qu'il y a un sens qui se construit peu à peu, de manière locale, à travers des régularités, des échos, des rimes, des rythmes. Je crois qu'on peut vraiment opposer ces deux idées du sens du poème chez Mallarmé, et c'est dans cette direction que je voudrais aller avec Proust. On emploie beaucoup aujourd'hui, me semble-t-il, deux expressions, elles sont en anglais, je vais les dire en anglais, pour caractériser ces deux modalités, peut-être rationnelles et empiriques, partant du haut et partant du bas, global et local. On dit qu'il y a des processus qui sont top-down, de haut en bas, et des processus qui sont bottom-up, de bas en haut. Je crois que ça vient, cette expression, de l'informatique, hein, où on dit qu'en programmation, dans les programmations des années 70, on allait du haut en bas, hein, on concevait le programme d'abord dans son ensemble, on partait d'un schéma d'ensemble, d'un plan, et puis chaque partie était élaborée peu à peu, affinée, mais en partant d'en haut. Et puis, en revanche, la démarche qui est ascendante, de bas en haut, elle part de petits éléments, de cellules, et puis elle compose à partir de ces cellules, comme de ces fragments, comme de ces semences. Il y a donc deux méthodes, on parle beaucoup de cela aujourd'hui, j'ai envie de dire une méthode descendante, de haut en bas, une méthode ascendante, de bas en haut, une méthode qui est plus rationaliste, de haut en bas, et une méthode qui est plus empirique, de bas en haut. Ça fait peut-être aussi penser à la fameuse distinction de Lévi-Strauss entre l'ingénieur et le bricoleur. L'ingénieur qui conceptualise et qui travaille de haut en bas, le bricoleur qui part de bas en haut. Mais je crois que tous les ingénieurs sont un peu des bricoleurs, donc cette distinction n'est peut-être pas la plus utile. On peut aussi penser, je crois, quand on évoque ces deux méthodes, à la lecture. Il y a beaucoup de polémiques sur la lecture aujourd'hui. Il y a des gens qui disent qu'on lit de haut en bas. On a d'abord un préjugé sur le sens des phrases, et puis on vérifie, on fait une hypothèse sur le sens, et puis on vérifie que c'est bien ce qui est écrit. Il y a d'autres gens qui disent qu'au contraire, on lit de bas en haut. C'est la méthode globale, par exemple, qui lit les mots comme des totalités, ou la méthode syllabique aussi, puisqu'on est dans un climat de polémique sur ces méthodes. La méthode globale, la méthode syllabique, ce sont des méthodes de bas en haut, mais ce n'est pas le même bas, soit la syllabe, soit le mot. Il y a là, je crois, deux stratégies du traitement de l'information, du classement des savoirs, et il me semble que cela nous concerne pour la lecture de la recherche du temps perdu et pour la structuration de la recherche du temps perdu. Il y a des analyses du roman dont on peut dire qu'elles sont top-down, qui sont de haut en bas, qui sont descendantes. Ce sont toutes celles qui partent du système de la recherche du temps perdu. Combré et le temps retrouvé, le grand arc du début et de la fin. Et on sait que Proust a beaucoup dit que la fin avait été écrite avant le début, une manière de nous orienter vers cette lecture rationaliste, totale, de la recherche du temps perdu. Et puis, il y a des lectures dont on peut dire, me semble-t-il, qu'elles sont bottom-up, qui partent du local, du détail, d'un écho, d'une citation, d'une allusion, d'une coïncidence. Elles partent, au fond, toujours du minimum de ce qui peut faire sens, c'est-à-dire une répétition, la moindre répétition de son qui peut faire sens. Une rime, c'est le moins qu'on puisse dire, une variation d'un phonème. Vous aurez sans doute compris que j'ai tendance à préférer plutôt la seconde méthode, la méthode qui part de la cellule, de l'élément, de l'écho, de la rime. Il me semble qu'elle est plus féconde, plus productive. Peut-être parce qu'elle est plus intuitive. Et on sait que chez Proust, on trouve ce procès de l'intelligence rationnelle, justement, de l'intelligence conceptuelle. C'est ça qui est contradictoire ou paradoxal, c'est qu'en même temps Proust défend un système, une théorie, et puis qu'il se méfie de tout ce qui est systématique et qui se repose sur l'intelligence. Moi, il me semble qu'il est donc sans doute plus productif de partir de la cellule de sens. C'est ce que j'ai essayé de faire dans une série de ces lectures que j'ai pu proposer. Mais sans oublier qu'il y a bien dans le roman deux structurations différentes. Il y a une structuration descendante de la totalité de la recherche vers l'infime détail. Et souvenez-vous que lorsqu'on reprochait à Proust au moment de la publication du premier roman, on lui reprochait que ce n'était pas composé, ce n'était pas construit. Sa réplique était toujours la même, attendez la fin, et vous verrez que c'est parfaitement construit, que tout est à sa place, que le moindre détail est nécessaire. Donc il y a bien cette structuration descendante, mais en même temps, il me semble qu'il y a aussi cet élément de structuration ascendante qui part du plus petit. On pourrait dire qu'il y en a une qui est plus philosophique et l'autre qui est peut-être plus poétique ou plus romanesque. Plus poétique et plus romanesque parce qu'elle se fonde j'ai envie de dire, sur des coïncidences, sur des répétitions, sur des rencontres. Anatole France disait de Sainte-Beuve, je crois que c'était une réflexion qui allait un peu dans le même sens, il disait de Sainte-Beuve qu'il était notre saint Thomas d'Aquin. Il l'avait baptisé notre saint Thomas d'Aquin. Bon, Sainte-Beuve, l'auteur des Lundis, l'adversaire de Proust, et bien entendu, quand on pense à la somme théologique de Thomas d'Aquin, c'est une construction qui est de haut en bas, comme la théologie, par principe. Mais il me semble que les Lundis de Sainte-Beuve, en revanche, c'est plutôt une construction qui est de bas en haut. Sainte-Beuve accumule les portraits, et puis des portraits, il sortira ce qu'il appelle une histoire naturelle de l'esprit. Mais elle sort, elle se dégage peu à peu d'une composition. Les portraits de Sainte-Beuve composent peu à peu une totalité. Cette citation d'Anatole France, Anatole France disant de Sainte-Beuve qu'il est notre saint Thomas d'Aquin, je l'ai trouvée chez Maurras. Et c'est Maurras qui ajoutait, après avoir rapporté ce jugement d'Anatole France sur Sainte-Beuve, il disait « Chaque âge possède le Thomas d'Aquin qu'il mérite ». Bon, on sent que cette phrase était un peu critique, hein. Chaque âge possède le Thomas d'Aquin qu'il mérite. Autrement dit, aux yeux de Maurras, Sainte-Beuve, ce n'était quand même pas tout à fait saint Thomas. J'ai envie d'ajouter qu'après Sainte-Beuve, nous avons mérité Proust. Il est un petit peu notre saint Thomas d'Aquin, notre somme. Et c'est ce que je voudrais essayer de mesurer aujourd'hui. Bref, si les Lundis de Sainte-Beuve étaient la somme du XIXe siècle, à la recherche du temps perdu, et la somme du XXe siècle, mais aussitôt se pose la question, est-ce une somme à la manière de la somme théologique, de haut en bas, ou est-ce une somme à la manière des Lundis de Sainte-Beuve de bas en haut. Bien sûr, il y a un petit peu d'ironie à dire que Proust, c'est notre Sainte-Beuve, puisque il est quand même l'auteur du contre-Sainte-Beuve. Cela dit, il me semble qu'on peut soutenir cette idée et revenir au texte où Maurras traiter Sainte-Beuve de notre saint Thomas d'Aquin, pour essayer de comprendre cette affaire et comment situer Proust. Maurras dit cette proposition dans un petit livre qui s'appelle « Les trois idées politiques » de 1898. Donc c'est Maurras avant l'Action française. Maurras, c'est un Maurras critique et poète attaché à la décadence. Et dans ce petit livre, il y a trois chapitres, un chapitre sur Chateaubriand, un chapitre sur Michelet et un chapitre sur Sainte-Beuve. C'est une critique de Chateaubriand. Maurras nous dit que Chateaubriand a été choisi par modèle par la réaction, mais la réaction se trompe parce que Chateaubriand est de fait un révolutionnaire. En revanche, les radicaux ont choisi comme modèle Michelet, mais ils se trompent aussi parce que Michelet, c'est un homme de la tradition. Il y a donc deux hérésies, deux erreurs. La droite choisit Chateaubriand comme guide, mais Chateaubriand, c'est un homme de gauche. La gauche choisit Michelet comme guide, mais Michelet, c'est un homme de droite, profondément. Et entre les deux, Maurras trouve Sainte-Beuve. Au croisement de Michelet et de Chateaubriand, il y a Sainte-Beuve qui devrait être le guide. Et ce que découvre Maurras chez Sainte-Beuve, c'est la notion qui définira plus tard l'action française, c'est celle d'empirisme organisateur. C'est la première notion de cette notion chez Maurras. Le petit chapitre sur Sainte-Beuve s'appelle « Sainte-Beuve ou l'empirisme organisateur ». Ben, c'est cette notion à laquelle je crois qu'on peut réfléchir un peu, parce qu'au fond, peut-être réunit-elle justement, comme en chiasme, ces deux processus que je décrivais, le processus de bas en haut et le processus de haut en bas, le processus rationnel et le processus empirique, justement. Et voici comment il définissait, à l'époque où il était encore très littéraire, plus littéraire que politique, cet empirisme organisateur chez Sainte-Beuve. Il disait ceci, c'est l'exercice d'une diligente induction qui permet d'entrevoir et de dessiner entre deux purs constats de fait la figure d'une vérité générale. C'est donc une procédure empirique qui relève de l'induction diligente qui constate des faits, qui décrit. Sainte-Beuve fait des portraits, mais de ces portraits se dégage une vérité générale. Et Maurras poursuivait en disant qu'il s'agissait donc de recomposer un tout à partir d'analyses de détails en se fondant sur ce qu'il appelait des coups de bonheur. L'expression, je pense qu'elle vient du jeu. Le coup de bonheur, c'est la coïncidence, c'est la rencontre. C'est une vision très esthétique. Et il appelait encore un peu plus loin cette méthode de Sainte-Beuve la science de la bonne fortune. Science de la bonne fortune, il y a des hasards, il y a des rencontres, il y a des coïncidences, et on en dégage peu à peu, la science, une vérité. Il me semble qu'on pourrait décrire la recherche plutôt comme une science de la bonne fortune que comme une somme au sens de la somme théologique. Sans oublier que cette expression est très ironique, science de la bonne fortune. Qu'appelle-t-on bonne fortune en français ? Ce n'est pas n'importe quelle occasion. C'est un succès amoureux, une bonne fortune. C'est un rendez-vous galant. Il y a évidemment quelque chose d'ironique à dire que cette science, c'est celle de la bonne fortune. Je vous rappelle que Proust utilise toujours l'expression bonne fortune dans un sens érotique, dans un sens sexuel. C'est une occasion rencontrée, par exemple, entre Charlus et Jupien, par le hasard, toujours le hasard, d'une indisposition de Madame Villeparisis. Charlus ne se rend pas dans l'hôtel des Guermantes à l'heure habituelle. Par le hasard d'une indisposition de Madame de Villeparisis, il avait rencontré le giletier et avec lui la bonne fortune réservée aux hommes du genre du baron par un de ces êtres qui peuvent même être, on le verra, infiniment plus jeune que Jupien et plus beau, l'homme prédestiné pour que ceux-ci aient leur part de volupté sur cette terre. La bonne fortune, c'est l'occasion galante, plus que le kairos au sens de la philosophie grecque. Bien, il me semble qu'on peut décrire la recherche comme cette science de la bonne fortune, comme cette analyse de la complexité des choses dont se dégagent peu à peu des vérités. Comme cette analyse qui va peu à peu vers la profondeur des choses. Je ne suis pas très loin de Proust en disant qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'empirisme organisateur ou de la science de la bonne fortune dans la manière dont les petites choses s'organisent dans la recherche du temps perdu. Voici une scène qui, me semble-t-il, l'illustre. Il s'agit de l'écoute de la Berma dans Le Côté de Guermantes et de l'interprétation de la Berma. Le héros donc se rend à une matinée théâtrale et c'est une de ces matinées où il y a une première partie avec un acte de Phèdre et puis une seconde partie avec un acte d'un auteur contemporain, d'un dramaturge contemporain dont le nom n'est pas donné mais qui est appelé une de ses nouveautés qu'elle interprète ensuite et où, nous dit le narrateur, elle est aussi sublime que dans Phèdre. Elle a une diction spéciale. Et le narrateur analyse donc sa diction. Et c'est ce qui m'intéresse, puisque on est donc au plus près de ce qui est le plus infime dans la structuration, c'est-à-dire, en l'occurrence, la rime. La Berma, nous dit le narrateur, étendait de vastes nappes de terreur, de tendresse, sur les mots fondus également, tous aplanis ou relevés, et qu'une artiste médiocre eût détaché l'un après l'autre. Et le passage se poursuit comme ceci, donc il est en train d'analyser la diction de l'artiste, ce qui lui est tout à fait particulier, hein, ce qui est son jeu à elle, puisque la Berma, comme tous les artistes de la recherche du temps perdu, il fait toujours la même chose, il est toujours identique à lui-même. Elstir ne peint jamais qu'un tableau, Vinteuil n'écrit jamais qu'une musique, mais justement une musique qui peut devenir de plus en plus complexe. Écoutant la Berma, le narrateur poursuit en disant « N'est-ce pas déjà un premier élément de complexité ordonnée ?» Voilà l'expression qui, je crois, est très intéressante, c'est cette complexité ordonnée. C'est un peu ça l'empirisme organisateur ou la science de la bonne fortune. N'est-ce pas déjà un premier élément de complexité ordonnée, de beauté, quand en entendant une rime, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois pareil et autre que la rime précédente, qui est motivé par elle, mais y introduit la variation d'une idée nouvelle, on sent deux systèmes qui se superposent, l'un de pensée, l'autre de métrique. Il me semble qu'on a là une analyse, justement, très subtile de la manière dont le sens part d'en bas et monte peu à peu à travers une rime qui est à la fois pareille et autre que la rime précédente, motivée et introduisant une variation avec cette idée qu'il y a deux systèmes, comme dit le narrateur, qui se superposent, l'un de pensée, l'autre de métrique, et qu'entre les deux, il y a quelque chose qui grince, ça joue. Ce n'est pas parfait. D'une rime à l'autre s'introduit une différence, et une différence qui crée du sens. Une magnifique analyse de la construction du sens. La Berma, poursuit-il, faisait pourtant entrer les mots, même les vers, même les tirades, dans des ensembles plus vastes qu'eux-mêmes. Et comment le sens part du bas, hein, de cette rime, de ce décalage le plus petit qui est celui de la rime, et s'intègre dans des ensembles plus vastes, à la frontière desquels c'était un charme de les voir obligés de s'arrêter, s'interrompre. Ainsi, un poète prend plaisir à faire hésiter un instant à la rime le mot qui va s'élancer, et un musicien à confondre les paroles diverses du livret dans un même rythme qui les contrarie et les entraîne. Tout l'analyse porte sur cette dualité, le rythme qui contrarie et entraîne, le rythme qui heurte ce qui vient d'être dit, qui est boiteux par rapport à la rime précédente, et en même temps qui l'intègre dans un autre sens. Ainsi, dans les phrases du dramaturge moderne, comme dans les vers de Racine, la Berma savait introduire ces vastes images de douleur, de noblesse, de passion, qui étaient ses chefs-d'œuvre à elle, et où on la reconnaissait, comme dans des portraits qu'il a peints d'après des modèles différents, on reconnaît un peintre. Ainsi, c'est donc toujours la même Berma qu'elle nous dise du Racine ou qu'elle nous dise un artiste contemporain, dramaturge contemporain, comme un peintre, c'est toujours le même peintre. Et vous voyez que ce que le narrateur analyse, c'est la construction de cette air de famille qui définit un artiste. Qu'est-ce qu'un air de famille? Eh bien, ce sont ces détails de la diction de la Berma, ce sont ces hésitations sur une rime, c'est ce heurte du rythme dans ce nappé qu'elle impose aussi bien à Phèdre qu'au dramaturge moderne. Et vous voyez que tout cela est fondé sur l'interaction du son et du sens, le jeu d'un système de pensée et d'un système de métrique, nous dit le narrateur. Voilà ce que le narrateur appelle complexité ordonnée. Il y a une complexité ordonnée, quelque chose comme une science de la bonne fortune, quelque chose comme l'exploitation de ces rencontres, de ces coïncidences. Vous le voyez, Proust est en même temps très sensible aux grands ensembles, la grande structure de la recherche, et puis il est très sensible ici à cette façon dont la complexité monte d'en bas et à la manière d'y reconnaître peu à peu des régularités. Dans le jeu de la Berma, on reconnaît des régularités, c'est ça la Berma. C'est l'air de famille que produit la Berma. Il y a un passage très connu de La recherche du temps perdu qui théorise tout cela, qui réfléchit à tout cela, c'est le passage de La prisonnière, que j'ai déjà commenté dans le passé, où le narrateur joue au piano la sonate de Vinteuil. Jouant la sonate de Vinteuil, il se souvient à l'improviste de Wagner. Vinteuil évoque Wagner. Dans une sorte de rencontre ou de coïncidence, et c'est le début d'une profonde méditation sur les œuvres du XIXe siècle opposées aux œuvres du XXe siècle. Et le narrateur écrit « Je songeais combien tout de même ces œuvres participent à ce caractère d'être, bien que merveilleusement, toujours incomplète, qui est le caractère de toutes les grandes œuvres du XIXe siècle. Du XIXe siècle, dont les plus grands écrivains ont manqué leurs livres. Mais, se regardant travailler comme s'ils étaient à la fois l'ouvrier et le juge, ont tiré de cette auto-contemplation une beauté nouvelle, extérieure et supérieure à l'œuvre, lui imposant rétroactivement une unité, une grandeur qu'elle n'a pas. Vous voyez qu'il y a bien cette réflexion sur ce que j'appelais le bas et le haut. Ces grands créateurs du XIXe siècle sont à la fois l'ouvrier et le juge. Ils voient l'œuvre des deux côtés, et ce que le narrateur analyse, et Proust avec lui, c'est au fond cette interaction entre un mouvement ascendant et un mouvement descendant, celui qui construit à partir des cellules, des plus petits éléments, et celui qui conçoit à partir des plus grands éléments. Et vous le voyez, la remarque est très ambiguë, puisque ce que nous dit le narrateur, c'est que ces œuvres du XIXe siècle, il pense à Wagner, mais il pense aussi à Balzac, à Michelet, à Hugo, ce sont les modèles auxquels il pense, ces œuvres sont grandes, mais elles sont manquées. Et l'expression est très intéressante, il dit qu'elles sont merveilleusement incomplètes. Donc c'est une expression tout à fait contradictoire. Elles sont incomplètes, il leur manque quelque chose. Et elles sont en même temps merveilleuses, et c'est ça qui fait leur beauté. Elles sont incomplètes parce qu'elles n'ont pas été préméditées, parce qu'elles n'ont pas été préconçues, parce qu'elles ne sont pas le résultat d'une vision d'en haut. Leur unité et leur totalité a été constatée après coup par le Créateur, comme dans la comédie humaine, qui après coup se rassemble dans la comédie humaine. Comme nous dit encore le narrateur, dans la légende des siècles, chez Hugo, ou dans la Bible de l'humanité chez Michelet, ou dans la tétralogie de Wagner. Les artistes, à chaque fois, une fois l'œuvre faite, constatent qu'elle compose une totalité et réunissent les parties distinctes en un cycle. Et, juge le narrateur, cette illumination rétrospective qui fait de l'ensemble un tout, c'est un coup de pinceau imprévu, le dernier et le plus sublime. Vous voyez qu'il y a une analyse donc, de ces œuvres auxquelles il manque quelque chose et qui sont pourtant merveilleuses, et ce qui leur manque, c'est la préconception, la préméditation. Michelet nous dit, le narrateur, est le plus grand dans ses préfaces. Parce que dans ses préfaces, il recompose l'œuvre comme un tout après coup. Les plus grandes beautés de Michelet, il ne faut pas tant les chercher dans son œuvre même que dans les attitudes qu'il prend en face de son œuvre. Non pas dans son histoire de France ou dans son histoire de la Révolution, mais dans ses préfaces à ces deux livres. Préfaces, c'est-à-dire pages écrites après eux, où il les considère et auxquelles il faut joindre ça et là quelques phrases commençant d'habitude par un « le dirai-je » qui n'est pas une précaution de savant, mais une cadence de musicien. Je crois que la phrase est très intéressante. Donc, Michelet est grand dans ses préfaces où il voit après coup l'œuvre de haut. Il les considère. Bien entendu, lorsque Proust évoque ces préfaces de Michelet qui sont vues de haut, ça ne peut pas ne pas nous faire penser au tableau de la France de Michelet, qui est la préface du second volume de l'Histoire de France, dans lequel Michelet décrit toute la France vue depuis le sommet des Vosges ou du Jura. C'est la géographie vue d'en haut, c'est une autre préface de Michelet. Et Proust dit dans sa correspondance que c'est là qu'on trouve les phrases de la langue française qu'il trouve les plus belles dans ce tableau de la France. Mais ici, il pense à la préface elle-même qui a été écrite après coup. Et vous voyez, encore une fois, ce jeu de Proust entre le haut et le bas, cette préface de Michelet, c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que dans cette préface, il considère son œuvre de haut, mais en même temps, c'est beau à cause de ces phrases qui commencent par « le dirais-je », qui ont une cadence de musicien. Et on retrouve cet élément le plus élémentaire, qui est celui de la cellule rythmique de Michelet, et c'est cette phrase que Proust pastichera dans son pastiche de Michelet. Il y a donc ce jeu avec les œuvres du XIXe siècle qui sont ratées. Ce qu'il y a de plus beau, c'est ce point de vue rétrospectif que l'artiste donne sur l'œuvre, et en même temps, ce qui est magique aux yeux du narrateur dans ces textes, c'est la manière dont les cellules les plus élémentaires y trouvent leur place. Et de là, le narrateur passe à Wagner, hein, musicien qui me ravissait, tirant de ses tiroirs un morceau délicieux pour le faire entrer comme thème rétrospectivement nécessaire dans une œuvre à laquelle il ne songeait pas au moment où il l'avait composée. C'est un épisode bien connu de la composition de Wagner, hein, et cette idée qu'il y a un morceau que le compositeur a composé par hasard, qu'il a rangé dans un tiroir, auquel il ne pense plus pendant des années, et puis que, composant un opéra, il trouve, c'est l'heureuse rencontre, hein, c'est la bonne fortune, c'est l'occasion, l'occasion de placer cette cellule, ce morceau. Le morceau, en l'occurrence, c'est l'air du chalumeau du pâtre dans Tristan, à l'acte 3, scène 1. C'est un célèbre morceau de cor anglais, hein, j'aurais dû l'apporter pour vous le faire entendre, qui annonce l'arrivée du navire d'Iseult dans l'opéra de Wagner, et dont Wagner dit dans son autobiographie, Ma vie, que cet air de cor anglais lui a été inspiré par un chant de gondolier vénitien des années auparavant. Donc c'est le modèle de cette cellule étrangère qui trouve sa place dans une œuvre totale par hasard, par une heureuse rencontre, par une bonne fortune, par un coup de bonheur. Proust, bien sûr, entend distinguer son œuvre à lui de ses œuvres qui sont grandes par hasard. La sienne, elle serait préméditée. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'elle n'était certainement pas si entièrement préméditée et que sa grandeur, elle aussi, vient de cette possibilité d'y insérer des éléments étrangers. Le narrateur dit de ses grandes œuvres du XIXe siècle, donc insuffisantes mais merveilleuses, qu'elles ont donc une unité ultérieure. L'unité n'est pas préalable, elle est ultérieure. Mais du coup, ajoute-t-il, unité ultérieure non factice. Sinon, elle fut tombée en poussière, comme dans tant de systématisations d'écrivains médiocres qui, à grand renfort de titres et de sous-titres, se donnent l'apparence d'avoir poursuivi un seul et transcendant dessein. Non factice peut être même plus réel d'être ultérieur. Vous voyez le paradoxe dans lequel se meut le narrateur. Les œuvres du XIXe siècle, Balzac, Hugo, Michelet, Wagner, il leur manque quelque chose puisque c'est seulement après coup que l'artiste s'est rendu compte qu'elles constituaient une totalité. Elles sont donc imparfaites. Mais paradoxalement, leur unité est supérieure. puisqu'elle n'a pas été préméditée. Leur unité est réelle, elle n'est pas artificielle, elle est profonde, leur unité. Non factice, plus réelle d'être ultérieure, d'être née d'un moment d'enthousiasme où elle est découverte entre des morceaux qui n'ont plus qu'à se rejoindre. Vous voyez les deux structurations dont j'essaye de vous parler depuis le début de l'heure, cette structuration de haut en bas et puis cette structuration de bas en haut et comment elles se croisent. L'artiste se rend compte à un certain moment que les morceaux se rejoignent, que l'air du chalumeau du pâtre qui était en réserve dans un tiroir a par hasard trouvé sa place dans l'opéra que Wagner est en train de composer. Les morceaux qui n'ont plus qu'à se rejoindre, unité qui s'ignorait, donc vitale et non logique. Voilà l'opposition du vital et du logique, donc du rationnel et de l'organique. Cette unité est organique puisqu'elle est constatée après coup. Qui n'a pas proscrit la variété ? Vous retrouvez cette variété, cette notion de variété importante tout à l'heure à propos de la rime de la Berma, cette rime qui introduit la différence, la variété. Qui n'a pas proscrit la variété ? Refroidit l'exécution. Elle est, comme tel morceau composé à part, toujours le chalumeau du pâtre, née d'une inspiration non exigée par le développement artificiel d'une thèse et qui vient s'intégrer au reste. Vous voyez comment ce passage est profondément ambivalent. Profonde ambivalence du narrateur vis-à-vis de ses œuvres insuffisantes mais supérieures, manquées mais plus profondes. Et, bien entendu, la conclusion qu'on peut en tirer, en tout cas provisoirement, c'est celle d'une recherche, d'un modèle pour la recherche, combinant ces deux modèles. Le modèle descendant et le modèle ascendant, la recherche ne parvient-elle pas, ne réussit-elle pas à combiner ces deux démarches ou ces deux processus ? J'évoquais, lorsque j'avais fait ma leçon inaugurale, cet escalier de Chambord qu'aimait Thibaudet avec... dans l'architecture de l'escalier de Chambord, cette double hélice, l'escalier par lequel on monte et l'escalier par lequel on descend, je crois que je pourrais l'évoquer encore ici. Vous voyez cette structuration que recherche la recherche du temps perdu qui est en même temps ascendante et descendante, comme dans cette double hélice. Bien, je voudrais, pour vous montrer comment les choses se nouent, terminer l'analyse de ce passage en venant à son contexte immédiat, auquel, à la vérité, je n'avais jamais pris garde. Dans le passé, j'avais analysé cette page sur les grandes œuvres du XIXe siècle que le narrateur trouvait en même temps manquée et plus profonde, puisque l'unité en était constatée après coup. Je n'avais jamais vraiment pris garde au contexte, au cadre dans lequel se situait cette réflexion sur les œuvres du XIXe siècle et, par contre-coup, sur les œuvres du XXe siècle et sur l'idéal de la recherche du temps perdu. Cette réflexion est provoquée par une reconnaissance. Le narrateur joue la sonate de Vinteuil au piano, et cette sonate lui rappelle Tristan. Nous revenons donc bien à la mémoire, à l'allusion et à la reconnaissance que nous avions évoquée dans des cours précédents. C'est la reconnaissance d'une allusion qui suscite toute cette réflexion sur les œuvres complètes et incomplètes. Voici le passage. Le narrateur donc joue Vinteuil au piano. Il est assez heureux, assez en paix, puisqu'Albertine est partie, elle ne lui manque pas, et qu'elle doit rentrer. Il sait qu'elle reviendra, elle est sortie avec Françoise. Chaque artiste, chaque grand artiste, dit-il, semble en effet si différent des autres et nous donne tant cette sensation de l'individualité que nous cherchons en vain dans l'existence quotidienne. C'est un air connu, l'idée que chaque artiste, c'est un monde. On l'a vu pour la peinture, on vient de le voir il y a un moment avec la Berma. Chaque artiste crée un monde, et c'est le même monde dans toute son œuvre. Il y a cette individualité profonde que nous cherchons en vain dans l'existence quotidienne, mais que nous trouvons dans l'art. Donc on est dans une idée qui est devenue assez commune dans la recherche du temps perdu, qui n'a rien de déconcertant. Chaque artiste, c'est un monde. Au moment où je pensais cela, une mesure de la sonate me frappa. Il y a bien cet élément de choc que je décrivais, hein, de rencontre qui est choquante. On est dans le coup, comme disait Maurras, le coup de bonheur, dans ce qui est familier, il y a un choc, une rupture. Au moment où je pensais cela, une mesure de la sonate me frappa. Mesure que je connaissais bien pourtant. Mais parfois, l'attention éclaire différemment des choses connues pourtant depuis longtemps et où nous remarquons ce que nous n'y avons jamais vu. C'est un passage qui, d'une certaine façon, pourrait servir d'emblème à tout un cours sur la mémoire de la littérature. Le fait que, comme je le disais, je crois, lors d'une première leçon, que c'est ça l'allusion. On passe constamment à côté d'elle, dans la littérature, sans la voir. Et puis, un jour, elle vous frappe et on ne voit plus que ça. Je avais pris l'image, je crois, de cette femme enceinte, hein, grosse, comme disait le narrateur. On ne s'en rend pas compte. Et puis, à un moment, on le constate, et puis on ne voit plus que cela. Donc, ici, nous est parfaitement décrit cette situation où un passage parfaitement connu, parfaitement familier, un jour, à un moment donné, devient troublant. Il y a le moment, ici. Le moment, c'est un petit peu l'occasion. Hein, c'est le kairos. Nous remarquons ce que nous n'y avons jamais vu. En jouant cette mesure, et bien que Vinteuil fût là en train d'exprimer un rêve qui fût resté tout à fait étranger à Wagner, je ne pus m'empêcher de murmurer Tristan. Vinteuil a rappelé Tristan. La sonate de Vinteuil contenait une allusion à Tristan. Une allusion à côté de laquelle le narrateur était toujours passé. Je ne pus m'empêcher de murmurer Tristan. Ce que le narrateur analyse ici, c'est la phénoménologie de l'allusion, ce que nous avons évoqué dans les premières leçons. Je ne pus m'empêcher de murmurer Tristan avec le sourire qu'a l'ami d'une famille retrouvant quelque chose de l'aïeul dans une intonation, un geste du petit-fils qui ne l'a pas connu. Bon, ça vous rappelle quelque chose. Hein. On a beaucoup insisté dans des leçons précédentes sur le cousinage. Ici, ce n'est plus le cousinage, mais vous voyez que l'allusion, elle fait penser à l'aïeul dans l'intonation ou le geste du petit-fils. Et je suis aussi sensible au fait que ce qui revient ici, comme pour la Berma, ce n'est qu'une intonation, ce n'est qu'un geste. C'est quelque chose d'infime, de ténu, qui nous rappelle soudain Tristan. Et comme on regarde alors une photographie qui permet de préciser la ressemblance, par-dessus la sonate de Vinteuil, j'installais sur le pupitre la partition de Tristan, dont on donnait justement cet après-midi-là des fragments au concert L'Amoureux. C'est un passage assez magnifique parce que, vous voyez, il y a ce choc. Ah ! Derrière Vinteuil, il y a Tristan. Sous Vinteuil, il y a Tristan. Comme dans l'intonation d'un petit fils qui rappelle le grand-père. Et le geste qui suit consiste à poser une partition sur l'autre, comme dans un palimpseste. Vous voyez que le palimpseste est là, au fond, presque matériellement, physiquement. On pose une partition sur l'autre, et le narrateur, au fond, les joue en transparence, l'une sur l'autre. Comme on regarde une photographie qui permet de préciser la ressemblance, par-dessus la sonate de Vinteuil, j'installais sur le pupitre la partition de Tristan. Et enfin, nous vient quelque chose qui est un peu comme la clé de la reconnaissance de l'allusion, dont on donnait justement cet après-midi-là des fragments au concert L'Amoureux. Pourquoi le narrateur a-t-il été sensible à l'allusion à Tristan chez Vinteuil? Parce que, quelque part dans son cerveau, Tristan était présent en raison des concerts L'Amoureux dont il connaissait le programme. Il y a la clé, et là, de la reconnaissance de l'allusion. C'est donc un passage magnifique, puisqu'il s'agit de la rencontre d'une allusion à Wagner chez Vinteuil, de la reconnaissance d'une allusion, et vous voyez combien la thèse proustienne habituelle est un petit peu bouleversée par cela. Chaque artiste, c'est un monde, mais ces mondes se superposent, il y a des connexions entre ces mondes. Et tout cela renvoie à une multiplicité de couches de mémoire, puisque l'épisode en question, il a tout l'air d'être cette ère de chalumeau du pâtre. C'est déjà un épisode de mémoire chez Wagner, puisque Wagner s'en est souvenu tardivement, et l'a inséré dans son opéra Tristan. L'épisode renvoie donc, chez Wagner lui-même, à un épisode de mémoire, comme le dit un peu plus bas le narrateur. Avant le grand mouvement d'orchestre qui précède le retour d'Iseux, c'est l'œuvre elle-même qui a attiré à soi l'air de chalumeau à demi oublié d'un pâtre. Et sans doute, autant la progression de l'orchestre à l'approche de la nef, quand il s'empare de ces notes du chalumeau, les transforme, les associe à son ivresse, brise leur rythme, éclaire leur tonalité, accélère leur mouvement, multiplie leur instrumentation, autant sans doute Wagner lui-même a eu de joie quand il découvrit dans sa mémoire l'air du pâtre, l'agrégea à son œuvre, lui donna toute sa signification. Vous le voyez, la signification n'est pas préalable. La signification naît de cette rencontre pour Wagner. La mémoire créatrice tombe sur une chose oubliée, cet air écrit des années auparavant. C'est toujours la bonne fortune. C'est cela qui sert à mettre la dernière touche à l'œuvre de Wagner. Et peut-être faut-il encore rappeler que dans l'opéra de Wagner, dans Tristan, cet air du pâtre lui-même provoque la mémoire de Tristan. C'est un air mémoratif. comme on l'a dit au début. Lorsque Tristan entend cet air de Chalumeau du Pâtre, voici ce qu'il dit. « La vieille chanson, pourquoi m'éveille-t-elle ? Dois-je ainsi te comprendre, vieille chanson grave, avec ton accent de lamentation, par la brise du soir, elle pénétra timidement lorsque jadis fut annoncée à l'enfant la mort de son père. » Autrement dit, dans l'opéra lui-même de Wagner, cette musique est mémorative, provoque la mémoire. Vous voyez toutes les couches de mémoire qui sont ainsi empilées dans cet épisode. Tristan se souvient, Wagner se souvient, le narrateur se souvient. Et sans doute peut-on ajouter, pour conclure, que le Tristan, qui traverse toutes ces couches de mémoire, c'est un Tristan très littérarisé, puisque Proust le connaît surtout par un livre. Il le connaît par un livre très célèbre à la fin du XIXe siècle qui s'appelle « Le voyage artistique à Bayreuth » d'Albert Lavignac, bien plus que par les opéras. Mais ajoutons, comme vous l'avez constaté, que Proust connaît surtout Wagner par les partitions pour piano. C'est au piano, dans ses transcriptions, qu'il le rencontre. Eh bien, retenons pour finir de cet épisode que ce qui est véritablement important, c'est combien cette complexité est pensée comme une série de couches, d'épaisseurs. Et c'est à travers toutes ces épaisseurs de mémoire que l'art nous fait pénétrer. Mais il faut savoir profiter de l'occasion. Ce sont des bonnes fortunes qui nous ont été présentées. Il faut sauter sur ces occasions pour pouvoir en tirer les conséquences et en faire du sens. Arrêtons là pour aujourd'hui.